Vous écoutez On lit pour vous.
Les métiers du livre au féminin, un texte d'Alexandra Trautmann, paru le 10 avril 2025 dans la Gazette des femmes. Quelle place pour les femmes en littérature aujourd'hui? Les études le montrent, les grands lecteurs sont, en vérité, de grandes lectrices. Si les femmes sont des consommatrices majeures de littérature, quelle place occupent-elles au sein du milieu? Portrait de la présence des femmes dans les métiers et la chaîne du livre au Québec. Une étude commandée en 2019 par l'Union des écrivaines et des écrivains québécois, UNEC, révélait plusieurs phénomènes en matière d'inégalité dans le milieu, plus grande proportion de textes soumis par des hommes retenus pour publication, bourses moins élevées et prix moins prestigieux décernés aux femmes. La professeure Isabelle Boisclair, qui a dirigé cette recherche, souligne la difficulté d'obtenir des chiffres probants. Cet univers est complexe, avec plusieurs étapes à évaluer. Sélection des manuscrits, production, diffusion, promotion, réception critique, etc. Au Québec, on compte ces études sur les doigts d'une main. Une meilleure représentation des femmes. Isabelle Boisclair se montre néanmoins optimiste. On peut attester d'une certaine évolution. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes éditrices, directrices de revues, critiques. En 1980, la place donnée aux femmes, c'était adjointe ou attachée de presse. Or, la représentation au sein de postes décisionnels ou de jury exerce une influence directe sur l'équité. Une observation soutenue par Selena Bernard, coach de carrière littéraire et consultante. C'est essentiel que les femmes soient pleinement représentées dans les sphères créatives, les postes de gestion, les fonctions stratégiques et commerciales. Ces rôles influencent directement les choix éditoriaux et les politiques culturelles. Karine Vachon, directrice de l'Association nationale des éditeurs de livres, ANEL, a également été témoin de nombreuses transformations dans les 10 dernières années. Avant, beaucoup de maisons étaient dirigées par des hommes. La tendance s'inverse, le leadership des femmes est reconnu et souligné. Ce qui, ajoute-t-elle, offre d'importants modèles pour la relève féminine. Les librairies, une réalité à part. En 2025, les femmes étaient propriétaires ou copropriétaires de 48% des librairies membres de l'Association des librairies du Québec, ALQ. En outre, elles occupaient de 65 à 80% des postes en librairie en 2021, y compris comme directrice ou gestionnaire. Tout n'est pas parfait, évidemment, mais il n'y a pas les mêmes dynamiques de pouvoir en librairie que dans d'autres secteurs du livre. On est dans l'univers du commerce de détail culturel, explique Gabrielle Simard, directrice de l'ALQ. Les librairies sont un milieu assez inclusif, soutient Julie Collin, libraire responsable des événements et des communications à la librairie La Liberté, à Québec. Cela étant, c'est aussi un domaine relativement précaire, souvent rémunéré au salaire minimum pour de vastes compétences et connaissances, nuance-t-elle. Il existe en outre des métiers de l'ombre moins connus du grand public, comme la révision, et occupés majoritairement par des femmes. Parallèlement, Julie Collin constate une petite évolution vis-à-vis de la demande. Avant, quand je recommandais des romans avec des personnages principaux féminins, les hommes se sentaient exclus automatiquement. Aujourd'hui, il y a une plus grande ouverture. Les autrices québécoises, une voix unique. Cette ouverture et la volonté d'atteindre la parité s'observent également dans les nombreux événements littéraires de la province. À la Maison de la littérature, qui abrite une bibliothèque et une résidence d'artistes à Québec, ces réflexions font partie intégrante de la programmation avec une majorité de femmes. Ce n'est pas difficile. Le Québec regorge d'autrices formidables qui s'illustrent aussi à l'international, se réjouit Julie Veillet, responsable de la programmation pour l'organisme et pour son festival Québec en toutes lettres. D'emblée, au moment de bâtir notre calendrier, on pense à elle. Une parité généralement respectée dans le milieu, note-t-elle. Cette diversification anime beaucoup les diffuseurs et les producteurs en art littéraire aujourd'hui. Une sorte de veille se fait par les pairs et par le public. Selon Julie Veillet, ces écritures féminines s'inscrivent aisément dans des conférences et discussions publiques. En filigrane, les autrices traiteront des enjeux d'actualité, féminisme, défense des communautés marginalisées, changement climatique. On perçoit une combativité, une résilience de la part des femmes qui militent pour leurs droits depuis toujours. Cela transparaît dans leur démarche, dans le tissage de leur fiction. Cette voix unique se traduit par l'augmentation de rayons spécialisés dans les librairies ou encore par la création de clubs de lecture féministes. Il existe manifestement de la demande pour ce type d'activité, confirme Julie Collin. Autre preuve de cette voix unique, l'ANEL vient d'obtenir une subvention de la part du ministère de la Culture et des Communications pour célébrer 50 ans d'édition féministe au Québec. Des obstacles systémiques. Pourtant, au-delà des changements visibles, de nombreuses barrières persistent pour les femmes. Spécialiste du marketing et du développement des affaires dans la chaîne du livre, Selena Bernard relève la complexité des enjeux. Plus on monte dans les postes de gestion, plus on a tendance à infantiliser les femmes, à tomber dans le mansplaining. Il y a des boys clubs dans l'édition. C'est systémique. Pour les femmes, cela demande une adaptation qui représente une charge mentale supplémentaire, avec beaucoup de non-dits. Publiée en 2020 dans la foulée du mouvement #MeToo, une lettre ouverte signée par 150 femmes et personnes non-binaires québécoises, toutes professions littéraires confondues, décriait la banalisation des comportements déplacés à leur encontre. Dans ce contexte, l'ANEL s'est dotée d'un comité pour un milieu de l'édition sans violence sexuelle ni harcèlement. Grâce à #MeToo, la parole s'est libérée, évoque Karine Vachon. Nous voulions être un acteur de changement pour tout l'écosystème du livre. Ce comité a été très favorablement accueilli par la communauté. Par ailleurs, dans certains genres littéraires, comme le policier, les autrices tentent encore à utiliser un pseudonyme masculin pour augmenter leurs chances d'être éditées, à l'exception de la romance, seul genre où les hommes signeront plutôt au féminin, rappelle Selena Bernard. Même dissonance du côté de la poésie, longtemps dominée par les hommes. Des femmes poètes ont été infantilisées et méprisées par certains critiques, alors qu'on aurait crié au génie pour un homme, déplore Julie Collin, qui, en plus de ses activités de librairie, agit comme chroniqueuse littéraire et anime l'émission « Julie lit au lit » sur les ondes de CKIA-FM. On remarque donc une volonté de se structurer de la part des femmes dans l'industrie, affirme Julie Veillet. Elle porte beaucoup les nouveaux projets et organismes dans le milieu avec un fort sentiment communautaire, une solidarité et un engagement qui restent fondamentaux encore aujourd'hui pour continuer à cimenter leur place tout au long de la chaîne du livre. C'était « Les métiers du livre au féminin », un texte d'Alexandra Trautmann, paru le 10 avril 2025 dans la Gazette des femmes.
Des survivants appellent les candidats à soutenir les recherches sur les pensionnats. D'après un texte de Brett Forrester de CBC Indigenous, paru le 16 avril dans Espaces autochtones. Dans une campagne électorale où les enjeux autochtones sont éclipsés par la question des relations canado-américaines, des survivants des pensionnats pour autochtones et des militants appellent les candidats à s'engager à soutenir pleinement les recherches sur les tombes anonymes et les enfants disparus. C'est la faute du Canada, a insisté Janalie Jodoin, responsable du projet Wikwogaming Tina Tisiwin, qui a annoncé en janvier la découverte de 114 sépultures anonymes à l'ancien pensionnat de McIntosh dans le nord-ouest de l'Ontario. Citation : Le gouvernement doit ramener les enfants à la maison, un point c'est tout. Ce n'est pas sorcier. Ils doivent financer les recherches et tenir leurs promesses. Fin de citation, a martelé Mme Jodoin à CBC Indigenous. Le futur des initiatives mises en place par le gouvernement Trudeau en 2021, à la suite de la découverte de tombes anonymes à l'ancien pensionnat de Kamloops, est incertain, alors que plusieurs organismes dénoncent un manque de financement. En février, Ottawa a mis fin au financement du comité d'experts national chargé de conseiller les communautés autochtones qui entreprennent des recherches. L'automne dernier, les membres d'un comité consultatif sur les documents historiques relatifs aux pensionnats ont démissionné en bloc, invoquant un financement insuffisant. Le Canada a une responsabilité financière fiduciaire en ce moment, alors que des communautés cherchent à tourner la page sur les événements, croit Cadmus Delorme, l'ex-président du comité. Citation : En 2025, le gouvernement du Canada devrait soutenir la cause. Fin de citation, dit-il. Il était aussi chef de la Première Nation de Cowessess en Saskatchewan quand, en 2021, la communauté a annoncé la découverte de 751 sépultures anonymes. Citation : Nous ne pouvons pas nous contenter d'oublier. Nous devons nous occuper des choses dont nous avons hérité. Fin de citation, ajoute Cadmus Delorme. Les candidats à cette élection devraient reconnaître que l'enjeu dépasse la politique partisane, selon la responsable du secrétariat des survivants, Laura Hunt. Selon elle, les compressions budgétaires alimentent le négationnisme des pensionnats, un phénomène que les spécialistes définissent comme la déformation des faits sur le système des pensionnats, que la Commission de vérité et de réconciliation a qualifié de génocide culturel. Citation : Nous parlons de la vérité de l'histoire dans ce pays et d'une histoire dont on ne peut parler sans utiliser le mot héritage. Fin de citation, a déclaré Mme Hunt. Citation : J'aimerais donc que les partis s'engagent réellement à faire avancer la question des survivants des pensionnats pour autochtones et à rendre publics les dossiers. Fin de citation. Notre parcours de guérison. Invité par Mme Jodoin, CBC Indigenous a assisté à une réunion des aînés du projet Wikwogaming Tina Tisiwin, soutenu par la Première Nation de Grassy Narrows. Citation : Je ne comprends pas pourquoi ils essaient d'effacer à nouveau les Autochtones en ne faisant pas connaître la vérité. Fin de citation, a déclaré Steve Lands, ancien pensionnaire de l'école McIntosh et coordonnateur du projet. Citation : Beaucoup d'entre nous ont perdu des amis et des membres de leur famille à cause des abus, des traumatismes et de l'héritage des pensionnats. Nous avons besoin que les fonds ne soient pas coupés. Fin de citation, a-t-il ajouté. Citation. Il est important que le Canada sache ce dont nous avons souffert et qu'il nous aide à mener à bien ce projet. Fin de citation, a affirmé Géraldine Faubister, une survivante du pensionnat. L'ancien chef de Grassy Narrows, Rudy Turtle, s'est dit préoccupé par les compressions budgétaires et aimerait entendre quelqu'un dire explicitement qu'il financera les recherches sur les pensionnats. Citation. Cela fait partie de notre vérité et de notre réconciliation. Fin de citation, a-t-il expliqué. Citation. Cela fait partie de notre parcours de guérison dont tout le monde parle et le fait de supprimer le financement maintenant, alors que nous sommes en plein milieu des recherches, ne fait qu'empirer les choses. Fin de citation. La réponse des partis. Interrogés sur la question, les principaux partis ont exposé leur position à CBC Indigenous. Citation. Un gouvernement libéral dirigé par Mark Carney poursuivra cet important travail de soutien aux survivants et aux communautés et fera avancer les appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation. Fin de citation, a déclaré un porte-parole du Parti libéral. Le Parti conservateur, lui, a rappelé une déclaration qu'a faite son chef Pierre Poilievre en janvier. Citation, nous devrions fournir les ressources nécessaires pour permettre une enquête complète sur les vestiges des pensionnats. Fin de citation, avait-il déclaré à l'époque. Citation, les Canadiens méritent de connaître la vérité et les conservateurs défendront toujours l'exactitude historique. Fin de citation. Le nouveau Parti démocratique, NPD, le Bloc québécois et le Parti vert se sont tous engagés à soutenir complètement les enquêtes. Citation. Ce travail doit être mené par la communauté, tenir compte des traumatismes et bénéficier d'un soutien fédéral à long terme. Fin de citation, a indiqué le NPD. Il est important de soutenir ces initiatives pour que la lumière soit faite sur cette triste histoire, a répondu le Bloc. Les Verts ont fait savoir qu'ils soutiendraient pleinement les projets, citation, avec un financement stable à long terme et un contrôle mené par les Autochtones pour mettre au jour et traiter l'histoire coloniale du Canada de manière transparente et respectueuse. Fin de citation. De son côté, le Parti populaire du Canada a indiqué qu'il ne soutiendrait pas les enquêtes. Citation. Nous pensons que suffisamment d'argent a déjà été gaspillé dans cette affaire. Aucun corps n'a été retrouvé et cette histoire a été exagérée. Fin de citation, a dit un porte-parole. C'était « Des survivants appellent les candidats à soutenir les recherches sur les pensionnats » d'après un texte de Brett Forrester de CBC Indigenous paru le 16 avril dans Espaces autochtones.
Une pêche miraculeuse avec une campagne plus que satisfaisante pour le gris. Un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 25 avril 2025 dans le magazine Fugue. Lorsque les responsables du cabinet de campagne sont partis à la pêche au don l'automne dernier, ils s'étaient fixé un objectif réaliste d'atteindre la somme de 375 000 $. Malgré la situation économique instable, ils ont travaillé très, très fort et ont dépassé ce but pour finalement recevoir un résultat plus qu'appréciable, un montant de 427 735 $, soit 52 000 $ de plus. À la même époque l'an dernier, on dévoilait un chiffre de 378 402 $. Comment ont-ils réussi à recueillir une telle somme? Compte tenu du contexte actuel où l'intolérance et les discours haineux envers les communautés LGBTQ+ se multiplient, un élan de solidarité s'est manifesté pour soutenir notre mission, tant chez les membres de nos communautés que parmi nos alliés, affirme André Pascou, le président du Gris Montréal. C'est que, au mois de janvier, lors d'un colloque, le GRI Montréal avait dévoilé les résultats d'une étude réalisée dans les écoles. On y apprenait que les jeunes de la période 2023-2024 sont 3 fois plus mal à l'aise face au coming out d'un ami ou d'une amie, passant ici de 13,7% en 2017-2018 à 39,5% pour la période mentionnée ci-haut. On y mentionne également que 1 jeune sur 5 est mal à l'aise, voire très mal à l'aise avec l'idée que 2 femmes en couple fondent une famille et élèvent des enfants. En 2017, ces jeunes étaient à peine 1 sur 14. De plus, il en ressort que les jeunes hommes sont plus hostiles aux réalités LGBTQ+ que les jeunes femmes, et que le déclin du niveau d'aise apparaît plus vite chez les jeunes hommes. Presque comme un mantra, donc, le thème de cette campagne 2024-2025 était « Se raconter, inspirer, rallier ». Bien entendu, cela fait référence au travail du GRI, qui est d'aller dans les écoles, plus de 1 000 interventions par an, de sensibiliser les jeunes aux réalités LGBTQ+, et ce, à travers des bénévoles intervenants qui se rendent dans les classes pour rencontrer les élèves. Ainsi, avec la montée d'une certaine homophobie et transphobie au Québec, les mots « se raconter, inspirer, rallier » tombent à pic. Je suis agréablement surpris de cette récolte, surtout qu'avec les résultats de l'étude du GRI et ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump, ce n'était pas gagné, avoue Gauthier Péchadre, le coprésident du comité de la campagne et CPA associé chez Raymond Chabot Grant Thornton, département redressement et insolvabilité. Cela nous a permis d'aller chercher des dons de gens qui ne pensaient pas que de tels discours haineux comme aux États-Unis nous affectaient ici au Québec. Les résultats de l'étude ont été reçus comme un choc par les bénévoles du GRI. Des gens et des entreprises réalisent combien c'est important maintenant les programmes d'équité, diversité et inclusion, EDI. Mais ce n'est pas la faute des étudiants. On doit travailler à changer ça et cette somme va nous aider à le faire. On a connu un début de campagne difficile. Les gens semblaient figés. Après les fêtes, par contre, on a senti une belle énergie, plus d'ouverture de la part des gens et des entreprises. Les gens ont vu ce qui se passe et ont commencé à s'ouvrir plus à la diversité. Il y a eu des gens qui ont dit non à la discrimination. On l'a senti et on a réussi à dépasser notre objectif, renchérit la coprésidente du cabinet de campagne Annabelle Cadieux, directrice générale et vice-présidente secteur d'affaires, transformation des organisations chez Nova Concept. On ne prend jamais rien pour acquis. On savait que le contexte social et économique était difficile, mais l'équipe du cabinet de campagne a œuvré très fort pour atteindre l'objectif et même le dépasser. Si les fonds ne suivaient pas, cela aurait ralenti nos efforts de sensibiliser par nos bénévoles. On dépend donc des dons du public, souligne André Pascou, qui est avocat et associé pour le groupe Litige et règlement des différends au cabinet Macmillan LLP, en plus d'être président du GRI Montréal. Mais est-ce que l'atteinte de ce chiffre de près de 430 000 $ le surprend? Non, pas vraiment, de rajouter André Pascou. On les regardait y mettre tout leur cœur et on voyait bien que les choses bougeaient. Cela fait du bien pour le GRI de voir ça. L'objectif secondaire de notre campagne est toujours de faire connaître notre mission dans le milieu de l'éducation et de combattre la discrimination. Le plus beau, c'est que les dons continuent de rentrer. Ça n'arrête pas nécessairement avec l'annonce des résultats. Nous sommes très contents de ça, de rajouter Annabelle Cadieux, toute radieuse. Je crois sincèrement que c'est choquant de voir ce qui se passe au sud de la frontière, de constater cet esprit de discrimination. Cela fait ressortir ici ce en quoi nous croyons. Nos valeurs québécoises ne sont pas comme celles de nos cousins du Sud, poursuit Annabelle Cadieux. cela fait renaître nos valeurs d'inclusion, nos valeurs collectives. Je suis une alliée. J'ai senti durant la campagne ce vent d'appui au gris, mais aussi, de manière plus large, à la communauté LGBTQ+. Je travaille en finance et je peux dire que, peu importe le bord politique des gens, le message du gris passait. Les gens n'étaient pas imprégnés de ce qui se passe ailleurs. On sentait l'appui des alliés. Il est là, ce qui donne de l'espoir pour le futur, de commenter Gauthier Péchadre, qui en est à sa 4e levée de fonds pour le gris. Lors du dévoilement des résultats de la campagne de financement, un témoignage est venu souligner que chaque don peut transformer une vie. Il y a 15 ans, un jeune qui se savait gay vivait dans un milieu hostile à l'homosexualité, au point où il en était venu à la conclusion que sa vie ne valait peut-être pas la peine d'être vécue. Un beau matin, deux bénévoles du Gris Montréal sont venus dans ma classe de français et, pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à intégrer l'idée que, peut-être, la personne que je suis n'avait pas besoin de changer. Cette rencontre m'a littéralement sauvé la vie, en racontait Wolf Thiemat, aujourd'hui médecin résident en psychiatrie. Son histoire nous rappelle que le soutien de nos donateurs, donatrices, ne se limite pas à des chiffres, mais se traduit également en espoir et résilience. Je voudrais remercier toutes les donatrices et tous les donateurs pour leur appui, que ce soit des individus ou ceux issus du monde corporatif. Je les remercie du fond du cœur. C'est grâce à eux que nous pourrons poursuivre la belle mission du gris, souligne Andréï Pascou. Et tenez-vous bien, car les gens du cabinet de campagne, loin d'être épuisés ou abattus, sont ressortis ragaillardis et énergisés plus que jamais et sont même prêts à repartir sur le champ de bataille. « Nous avons des idées pour l'année prochaine », dit Annabelle Cadieux, toute rayonnante, appuyée par Gauthier Péchadre. « Nous sommes très reconnaissants du renouveau des vœux d'Anne et de Gauthier de reprendre la campagne. » Ils sont là depuis plusieurs années et nous sommes heureux de voir combien cette campagne leur tient à cœur et nous leur en sommes infiniment reconnaissants, de terminer Andréï Pascou. C'était une pêche miraculeuse avec une campagne plus que satisfaisante pour le gris. Un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 25 avril 2025 dans le magazine Fugue.